Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je ne suis pas face à Laurent Rollet, mais je suis au téléphone avec Laurent. Laurent, en quelques mots, tu es historien avant tout.
Oui, moi je suis un philosophe qui a un peu mal tourné, philosophe des sciences au départ, qui s'est tourné vers l'histoire des sciences.
J'aimerais bien aujourd'hui qu'on parle d'un sujet qui peut paraître un peu pointu, mais qui est à mon avis très intéressant, c'est l'attitude du Bureau des longitudes pendant la guerre 14-18.
En 1975, Maxime Le Forestier a mis en musique un échange de lettres entre un soldat et sa femme pendant la guerre 14-18. Les lettres commencent avant le début de la guerre et se terminent en 1916, laissant entendre une fin tragique. Vous allez entendre quelques extraits de cette chanson.
Avril 1912, ma femme, mon amour, un an s'est écoulé depuis ce mauvais jour où j'ai quitté ma terre. Je suis parti soldat, comme on dit maintenant. Je reviendrai te voir, d'abord de temps en temps, puis pour la vie entière.
Mais avant ça, tu vas devoir nous dire ce que c'est que le Bureau des longitudes, parce que j'imagine que l'immense majorité de nos auditeurs n'ont jamais entendu parler du Bureau des longitudes.
Le Bureau des longitudes, c'est une institution qui existe encore aujourd'hui, qui est située juste dans la cour de l'Académie des sciences. Elle est née dans le tumulte révolutionnaire en 1795. Elle a été fondée à l'initiative de l'abbé Grégoire. Le but initial, c'était de reprendre la maîtrise de la mer aux Anglais, qui avaient au XVIIIe siècle un board of longitude. Mais en fait, le Bureau des longitudes n'a pas fonctionné, ou très très peu, comme un bureau des longitudes, c'est-à-dire essayer de faire progresser le calcul des longitudes. Historiquement, c'est très vite devenu une académie liée aux sciences exactes et astronomiques.
Tu me dis que ce bureau, progressivement, est devenu une petite académie à l'intérieur de l'académie, en quelque sorte?
Oui, c'est une académie sœur de l'Académie des sciences. D'ailleurs, ses membres sont souvent, pas uniquement, mais sont souvent recrutés au sein de l'Académie des sciences, ou alors ils deviennent membres du Bureau des longitudes et ensuite ils vont à l'Académie des sciences. Le Bureau des longitudes, c'est une institution qui va s'intéresser au cours de son histoire à des questions de mécanique céleste, d'astronomie. Il a un lien avec l'établissement du système métrique et son installation. Ça va concerner aussi la question des échelles de temps, de la transmission des signaux horaires.
Ne rentrons pas dans trop de détails. Ce qui est intéressant dans cette discussion d'aujourd'hui, c'est que ce Bureau des longitudes est un groupe de grands savants de taille relativement modeste, qui se réunissent une fois par semaine et qui écrivent des comptes rendus de leurs réunions. Et si j'ai bien compris ton travail, ça a été de lire, commenter et éditer en quelque sorte les comptes rendus de ce groupe d'une vingtaine d'astronomes pendant la guerre 14-18.
C'est un travail de longue haleine que je n'ai pas fait tout seul, en fait, puisqu'on a eu un projet de recherche avec des collègues qu'on a dirigé avec Martina Schiavone autour des procès-verbaux des séances du Bureau des longitudes. Et ont minutieusement retranscrit tous les comptes rendus des réunions du Bureau des longitudes, donc des réunions hebdomadaires, donc sur une période qui va de 1795 aux années 1930. Et à un moment, donc, je me suis intéressé à ce qui se passait au Bureau des longitudes durant une période assez critique, qui est celle des années de guerre, donc la guerre de 1914-1918. Et là, j'ai épluché systématiquement tous les procès-verbaux pour essayer de repérer les moments où on parle du conflit mondial.
Commençons par le début. Est-ce que en 1913 ou en début 1914, est-ce que les savants du Bureau des longitudes voient le danger arriver?
J'en ai pas trouvé de trace.
Hiver 1913, mon mari, mon amour, penses-tu vraiment, toi qui es à la vie, que nous aurons la guerre?
intéressant, c'est de voir qu'il y a une forte internationalisation de la science dans tous les domaines, mais alors pour les sciences exactes, c'est vraiment très très net. Avant 1914, on a de multiples exemples de tout cela. Et donc, pour la géodésie, donc je crois que c'est 1910 ou 1912. Dans bien des domaines aussi, pour ce qui va concerner l'unification de l'heure, voilà. Et même dans les années 70, le Bureau des longitudes est associé à la création du Bureau international des poids et mesures. Donc, l'internationalisation, elle est vraiment très présente. Il y a même un idéal internationaliste qui est représenté par beaucoup de savants qui sont liés au Bureau des longitudes. Et ça se fait dans un contexte où on travaille, par exemple, avec l'Allemagne.
Donc ils ont des liens fréquents avec les observatoires allemands ou des choses comme ça?
Bien sûr, pour le recueil des données astronomiques, il y a des réseaux d'informations qui existent. Il y a même des membres correspondants du Bureau des longitudes qui sont de nationalité allemande.
Ça veut dire que dans les années qui précèdent la guerre 14, il n'y a pas cet esprit de revanche de 70 qui traîne?
Ah bon, ça traîne. Chez certains savants, c'est déjà présent. Mais ça n'empêche pas forcément le travail scientifique.
D'accord. Donc, en tout cas, ça ne se voit pas dans les comptes rendus des discussions qui ont lieu lors des séances hebdomadaires.
Il y a des questions de diplomatie scientifique qui se posent depuis longtemps, parce que dès lors qu'on crée une institution internationale, la grande question qui va se poser, c'est de savoir où on va placer le siège. Et donc, les grandes capitales scientifiques sont bien sûr candidates. Et donc, il y a des enjeux à la fois diplomatiques et politiques, et puis des rapports de force qui se font. Mais dans le même temps, ça se fait, et on arrive parfois à être en bonne intelligence avec les ennemis d'hier.
Août 1914, ma femme, mon amour, en automne au plus tard, je serai de retour pour fêter la victoire. Sommes les plus forts, coupez le blé sans...
Ce manifeste des 93, ou 93 savants allemands, savants de toutes sortes de disciplines, y compris littéraires, accuse en quelque sorte la France et les alliés de véhiculer de fausses informations sur l'Allemagne.
Alors ça, c'est un véritable choc pour les intellectuels français, et puis aussi pour les savants, notamment du Bureau des longitudes et bien sûr de l'Académie des sciences. En fait, ce manifeste, il est lié à l'invasion de la Belgique. Et il va y avoir de multiples réponses à ce manifeste et vraiment une mobilisation assez générale dans la société française contre ce manifeste.
Nos astronomes là, qui se réunissent toutes les semaines, ils parlent que de ça ou ils continuent à calculer des longitudes?
Alors en fait, à cette époque-là, on ne s'intéresse plus trop aux longitudes. Hein.
Oui, je me doute. Donc... Non, je veux dire des éphémérides.
Alors bon, il y a ces questions-là. Donc en fait, au début de la guerre, on expédie quand même les affaires courantes. C'est-à-dire qu'il y a plein de questions qui se posent, qui sont liées... notamment à la préparation des éphémérides, à la publication de la connaissance des temps, qui est une des publications du Bureau des longitudes. Et donc, bon, la guerre, elle éclate en août, hein, donc 1914. Et donc, les choses se passent de manière assez banale, finalement, pendant quelques mois. Mais on sent bien que à partir d'octobre-novembre, bah, les choses se crispent. Et donc, bien sûr, notre Bureau des longitudes, qui n'est pas composé que d'astronomes, parce qu'on a aussi des militaires, parfois un peu âgés, eh bien, la question, pas une question qui va apparaître de manière très très nette ou très 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 très, très fréquente, mais la question, bien sûr, de savoir quelle est la responsabilité du Bureau des longitudes et ses acteurs dans la situation présente va se poser.
Et donc, le sentiment anti-allemand commence à cette période.
Il y a surtout un sentiment patriotique. Alors, bien sûr, il y a un sentiment anti-allemand, mais en fait, bon, là, ça a été mis en avant par bien d'autres travaux que celui que j'ai pu faire, on ne trouve pas de sentiment anti-guerre chez les mathématiciens français. On a cherché avec des collègues s'il y avait des personnes qui pouvaient s'opposer à la guerre, et en fait, chez les mathématiciens, on n'en a quasiment pas trouvé. Alors bien sûr, en fonction des personnalités, on va avoir des savants qui sont plus ou moins patriotes ou avec des degrés d'engagement plus ou moins conciliants. Mais au-delà de ça, on ne voit pas de manifestation d'un sentiment anti-allemand au début. C'est plutôt un sentiment patriotique. Par contre, à la fin de la période de guerre, à partir de 1917-1918, là, c'est très très net, le sentiment anti-allemand, il est présent.
Est-ce que pendant cette guerre, le Bureau des longitudes a en quelque sorte contribué à la guerre en utilisant leurs compétences et leurs connaissances géophysiques, topographiques? Est-ce qu'ils ont aidé en quelque sorte l'armée?
C'est difficile à dire du point de vue des sources que j'ai consultées. Alors on trouve Les sources, elles sont biaisées parce que ce qu'il manque souvent dans ces sources-là, c'est les documents annexes. Alors, et puis ces sources, elles sont filtrées parce qu'elles sont recopiées. Alors, ce qu'on voit assez nettement, c'est que un certain nombre de savants vont parfois s'impliquer dans des questions, on va dire théoriques, qui sont liées, par exemple, au repérage des obus par le son ou ce genre de choses. On va s'intéresser parfois à la question du son émis par les bombardements autour de Paris. Et on va se poser des questions physiques autour de la propagation du son. On a quelques membres du bureau des longitudes qui vont s'intéresser à la réalisation d'un obusier. Mais ça reste, du point de vue des sources que j'ai consultées, assez peu représenté. En fait, en 1914-1915, le conflit, il est présent dans les réunions, manifestement, et on en parle. Et on en parle surtout du point de vue des restrictions de matériel, des restrictions budgétaires. On se pose la question de savoir comment continuer à faire les calculs, parce que les calculateurs et calculatrices, donc les personnes qui travaillent sur ces calculs, sont parfois mobilisés.
Et les membres du bureau des longitudes sont bien sûr tous trop âgés pour être au front.
Ah bien sûr, oui, la moyenne d'âge à cette période-là, je crois que c'est plus de 60 ans, 63 ans ou 64 ans. Donc on est chez des personnes qui ne peuvent pas contribuer sur le front. Alors par contre, effectivement, on a quand même quelques militaires qui sont membres du bureau des longitudes et qui sont parfois bien sûr associés dans d'autres commissions que le bureau des longitudes, plus ou moins directement aux activités militaires.
Quand tu dis un militaire du bureau des longitudes, tu viens de me dire qu'ils ont plus de 60 ans. Comment est-ce possible qu'ils puissent être militaires à 60 ans ?
Quand on est général, on est militaire à vie. on a Ernest Fournier, amiral, membre du Conseil supérieur de la Marine. On a Émile Gouillou, militaire qui est commandant, qui est géographe et navigateur, qui est directeur de l'Observatoire de Montsouris. Donc ces gens-là, ils ne sont pas très présents aux réunions, mais parfois, on leur demande leur avis. Ils ont des tas d'activités qui sont liées, de par leurs responsabilités, dans des commissions techniques qui sont liées à leur responsabilité militaire. Oui.
Tu n'as noté aucune déclaration, disons, pacifiste ?
Non. Alors là, c'est assez net, de toute manière. Il n'y a jamais une seule remise en question de la nécessité, de la légitimité de cette guerre. La question qui va se poser, c'est d'abord la question de savoir comment on peut organiser l'activité scientifique et continuer les activités, alors dans un contexte de pénurie, parce qu'il y a des saisies des métaux rares, par exemple, qui se font à partir de 1916 ou 1917, et donc on est très inquiet pour les instruments que possède le bureau des longitudes. Il y a des bombardements aussi parfois qui font qu'à un moment on va faire bouger les instruments à Clermont-Ferrand, je crois. Et puis après, l'autre question qui va se poser, alors que c'est plus tardif, c'est à partir de 1917, quand on commence peut-être à envisager une sortie de guerre, et surtout 1918, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va réorganiser l'international scientifique une fois qu'on aura terminé la guerre, et en espérant bien sûr la gagner.
La gagner et l'idée de garder des liens avec les Allemands ou bien de rompre des liens avec les Allemands ?
Alors là, c'est très très net. L'unanimité, alors avec des variations bien sûr en fonction des acteurs, l'unanimité chez les membres du bureau des longitudes, mais ça va être la même chose du côté de l'Académie des sciences. Ça va être de reconstituer les associations internationales qui pouvaient exister avant-guerre sans les Allemands.
Et c'est ce qui s'est passé.
Alors pendant la guerre, déjà, le premier point, ça va être de faire en sorte que les membres étrangers du bureau des longitudes soient évincés, retirés des listes du bureau des longitudes. Alors notamment, il y a un astronome et mathématicien qui s'appelle Wilhelm Foster qui va être, entre guillemets, victime de cette action. On lui avait attribué la Légion d'honneur et il y a eu un décret qui lui retirait la Légion d'honneur, un décret de l'État. Le bureau des longitudes a suivi ce mouvement en faisant en sorte que qu'il soit radié du bureau des longitudes.
Vers 1915, mon mari, mon amour, nous n'avons plus un sou, le père ne marche plus, je me débrouillerai et je saurai de plus en plus être économe. Mais quand tu rentreras diriger ta maison, si nous n'avons plus rien, du moins nous ne devrons d'argent à personne.
Alors, je vais te poser une question qui est un peu non historique. Est-ce que tu penses que En étudiant tous ces comptes rendus, ces réactions de nos prédécesseurs, on peut en tirer des conclusions sur ce qui se passe aujourd'hui ?
Ah ben je crois, oui. Alors c'est difficile de porter un jugement général sur ce qui se passe aujourd'hui, mais en fait, ce qui se passe à l'époque, c'est la question de la prise de responsabilité des intellectuels vis-à-vis des événements d'actualité. Et donc, par certains côtés, on voit très nettement que cette académie, elle est totalement ancrée dans la sphère sociale. En fait, c'est une institution qui est très, très politique. Et il y a un mélange des genres qui est assez fort. Par exemple, Paul Pinzé, qui est très actif, donc qui est un mathématicien, mais aussi un député, est très actif d'un point de vue politique durant la guerre, puisqu'il va être président du Conseil, ministre des Inventions, ministre de l'Instruction publique aussi, académicien des sciences. Donc, il est partout. Et à un moment, par exemple, il y a tout un projet d'instaurer une heure d'été, à la mode d'aujourd'hui, pour faire des économies d'énergie. Le Bureau des Longitudes est totalement contre cette loi pour des tas de raisons, notamment des questions d'unification de l'heure, de calcul des éphémérides. Mmh. En fait, Paul Pinzé est à la fois juge et partie dans cette histoire. Donc on a une institution qui est éminemment politique. Et puis, par ailleurs, c'est une institution dont les membres ont facilement l'oreille des politiques. Ce qui veut dire qu'en fait, les prises de responsabilité vis-à-vis de l'actualité sont aussi dictées par un agenda qui n'est pas que scientifique. Et donc, je pense qu'on apprend beaucoup en étudiant une institution, même dans une période assez éloignée de nous, parce que finalement, on peut se rendre compte des intrications entre ce qu'on appellerait la sphère scientifique et puis les autres sphères, la sphère sociale, la sphère politique, la sphère de l'engagement aussi.
Avril 1916, ma femme, mon amour. On dit que tout cela pourrait durer longtemps. La guerre se ferait encore pour 2 ans, peut-être 3 ans même. Je t'aime.
Tu parles de Pinlevé, je ne crois pas me tromper en disant qu'il était aussi impliqué beaucoup dans le tout début de l'aviation militaire.
Entre autres, oui, bien sûr, ça a été un acteur majeur pour l'aviation militaire et l'aviation tout court. Hein, si je ne me trompe pas, ça a été un des premiers à mettre en place des cours d'aérodynamique en France, ou l'un des premiers.
Ce que tu me dis est tout à fait intéressant. Tu parles du lien entre le Bureau des Longitudes, les savants de l'époque et les politiques de l'époque. Je crois malheureusement, est-ce qu'on peut dire malheureusement, que de tels liens sont beaucoup, beaucoup plus faibles aujourd'hui.
Je pense qu'il faudrait généraliser la question, parce que peut-être que la question pourrait se poser pour d'autres institutions scientifiques comme l'Académie des sciences, si on pense au changement climatique ou à d'autres thématiques. Et la question, c'est peut-être aussi de savoir si les savants aujourd'hui ont encore l'oreille des politiques d'un point de vue plus général. Et là, je pense que malheureusement, il y a un enjeu majeur de ce point de vue-là. Je pense qu'on ne les écoute plus suffisamment.
Est-ce qu'on peut présenter la chose un peu différemment ? Je ne sais pas si tu seras d'accord. Tu dis peut-être que les politiques n'écoutent pas les scientifiques, mais peut-être que les scientifiques ne leur parlent pas non plus.
Ça, c'est possible aussi. Et il y a la question peut-être de l'engagement. Alors, si je devais donner mon avis personnel, je pense que une partie de la communauté académique a perdu un peu la bataille face à l'accélération médiatique. J'ai un peu l'impression qu'on a une complexité de point de vue qui a du mal à se faire entendre.
Quand on regarde la presse quotidienne de l'époque, disons pendant la guerre ou même c'était début du XXe siècle, on se rend compte que l'Académie des sciences, les bureaux de longitude sont très présents. On rencontre presque chaque semaine de ce qui se dit en séance à l'Académie des sciences.
Ah, c'est une vraie pratique, alors, et ce n'est pas simplement au début du XXe. Durant tout le XIXe, on a effectivement une pratique journalistique qui consiste à se faire l'écho des débats, des discussions, même des controverses, au sein de l'Académie des sciences et au sein des institutions scientifiques en général. Et donc le Bureau des Longitudes n'y échappe pas.
Tout cela peut-être grâce ou à cause de Arago, non ?
Il y a eu Arago, et puis il y avait tout un engagement de certains savants au service de l'action publique. Par exemple, Émile Borel, mathématicien, qui sera membre aussi du Bureau des Longitudes, c'est quelqu'un qui, avant la guerre, est à la fois un très bon mathématicien, mais aussi très très engagé dans la sphère sociale, à travers la fondation d'une revue intellectuelle comme la Revue du Mois.
Je résume ce que tu es en train de nous dire, c'est que le monde scientifique a un peu perdu son influence sur le politique, et c'est bien dommage, Et l'étude de documents historiques, comme tu as pu le faire, peut nous aider.
Oui, et puis je pense que l'enseignement principal, alors c'est presque banal de le dire, mais en même temps c'est toujours important de le rappeler, c'est que la science, même la plus abstraite qu'elle soit, la science n'est jamais neutre. Il n'y a pas de tour d'ivoire du mathématicien ou du physicien qui serait déconnecté de la sphère sociale. La plupart du temps, ça ne se voit pas. Et par ailleurs, dans beaucoup de périodes, notamment au début du XXe siècle, beaucoup de savants vont revendiquer une forme de neutralité, alors axiologique ou du point de vue des questions politiques. Mais dans le même temps, ça ne résiste pas aux faits et ça ne résiste même pas à l'étude de leurs actions.
Tout ça est passionnant, mais en même temps, on a l'impression d'une petite contradiction entre la non-neutralité de la science et l'universalité de la science.
Eh oui, alors ça c'est une vraie question épistémologique. Alors ça dépend de la focale qu'on veut adopter. Alors les historiens des sciences sont un peu sortis de questions méthodologiques autour de ce qu'on appelle très souvent l'internalisme versus l'externalisme, en se disant qu'il y a des contraintes internes à la science qui font qu'on peut parler de la science telle qu'elle se fait sans trop faire référence à la sphère sociale, et puis l'externalisme qui dirait que la science, ça ne serait peut-être que ou beaucoup de social. On est un peu sorti de ça, mais dans le même temps, il y a une tension à essayer de d'élucider concernant, bien sûr, la portée des énoncés scientifiques, des théories scientifiques, qui visent bien sûr l'universalité, et la manière dont ces théories sont produites, à travers bien sûr des financements, des modes de fonctionnement institutionnels.
Ainsi s'est terminée cette tranche de vie, ainsi s'est terminée sur du papier jauni cet échange de lettres. Dites-moi donc pourquoi au village d'en haut, repassant en voiture, je n'ai pas regardé le monument aux morts, de peur d'y retrouver d'un ami jeune encore, comme la signature.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.